finalement, vaut mieux commencer au bon moment avec toutes les erreurs que ça peut comporter que de vouloir attendre que ce soit parfait pour s'y mettre. Et ça, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment, vraiment ma chance.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @jeremykleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes à la recherche d'un podcast pour vous booster créativement et que vous comprenez l'anglais, Creative Pep Talk, c'est fait pour vous. Et puis, juste comme ça, au passage, dites-vous que l'un de ses derniers invités est Joseph Gordon-Levitt. Oui, oui, l'acteur. Que fait-il sur un podcast dédié au métier de la création? Je vous laisse découvrir. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @andygpizza. Aujourd'hui, je suis hyper content de vous partager ma discussion avec Elodie Winter, photographe notamment spécialisée dans la photographie de mariage. D'ailleurs, elle a photographié le nôtre en 2014 et nous étions tellement ravis que suite à cette expérience, nous sommes devenus amis. Alors oui, on va parler de photos et notamment de mariage, mais ne vous attendez pas à une discussion rose-bonbon. Elodie a la tête sur les épaules et tient un discours vulnérable et sans langue de bois au sujet de son expérience de plus de 10 ans en tant que freelance. Discuter avec Elodie, c'est comme avoir une grande discussion avec une amie qu'on n'a plus vue depuis longtemps. Dites-vous que nous avons enregistré plus de 2 heures de conversation. Difficile de faire le tri, tellement les sujets abordés étaient riches et variés. Mais finalement, je crois avoir réussi à vous garder ce que je considère être l'essentiel de notre conversation. De son passage du graphisme à la photographie après ses études aux Beaux-Arts en passant par l'explosion de la photo de mariage en 2010, on aborde également ses diverses difficultés liées à la vie d'indépendant, mais aussi du sujet sensible de la confiance en soi, sans oublier des sujets comme l'importance de communiquer sur les réseaux ou encore d'oser demander de l'aide quand on en a besoin. Bon, j'oublie des dizaines de détails tellement cette discussion était riche et dense, et pour le coup, cette interview bat le record de l'épisode le plus long de l'histoire de Sens Créatif. Mais comme on est encore au mois d'août, et qu'à Paris, tout se fige et qu'on perd la notion du temps, je vous invite à faire de même. Laissez-vous embarquer, voici ma discussion avec Elodie Winter. Bonne écoute. Faut pas oublier le micro, non? Genre, tu le tiens comme ça.
Comme une chanteuse.
Comme une chanteuse, exactement. Parce que c'est ce que tu es, Elodie, une chanteuse.
Une chanteuse. C'est vrai, finalement, je suis une chanteuse.
C'est vrai? C'est vrai?
Mais non, je suis pas une chanteuse, mais on me gonfle avec Ophélie depuis la nuit des temps, tu vois.
Ah ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas.
Ouais, mais ça, c'est les gens bien qui n'y pensent pas. C'est...
Mais Ophélie. Ah, Ophélie Winter.
Exactement.
Mais tu vois, c'est pas ma culture.
Ouais, mais c'est très, très bien que ce soit pas ta culture. C'est très très bien. Mais c'est drôle parce qu'il y a même des gens qui me disent « Oui Ophélie, en fait, là, oh, je sais pas pourquoi je t'ai appelée Ophélie. » Non, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas.
D'ailleurs, j'aimais bien ça sur ton site internet à l'époque. Il y avait genre « Pourquoi Winter ?» Parce que c'est mon nom de famille, tout simplement.
Ouais, c'est très drôle d'ailleurs. Très souvent, on me demande si c'est mon vrai nom.
Ouais, c'est marrant.
Ouais. Bah oui. Bah voilà, c'est mon nom.
C'est ton nom.
C'est mon nom.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, bonjour Elodie Winter.
Bonjour.
Bienvenue sur Sens Créatif. Je suis ravi que tu aies fait le déplacement plus ou moins exprès depuis Strasbourg, expressément pour ça. Je suis honoré de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, notamment parce que j'ai plein de trucs à apprendre de toi, je crois. J'aime beaucoup la photographie, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Et puis aussi parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, notre histoire est tout petit peu lié, du moins le temps d'un week-end. Parce que, Elodie, tu es photographe, tu fais plein de choses, mais tu as notamment été un peu bon gré mal gré, selon tes propres dires, connu à travers la photographie de mariage. Et tu as photographié le nôtre en 2014. On était ravis. Et ce qui est trop très marrant, c'est que une fois qu'on avait défini la date de notre mariage, la première chose qu'on a réservée, ce n'est pas la salle, c'est toi. Elodie Winter, Madeleine voulait à tout prix que ce soit toi. Et voilà, donc ça montre à quel point elle était vraiment fan, tu vois. Elle est toujours d'ailleurs. Elodie, bienvenue. Tu es ici, chez toi. Voilà.
Merci. Ouais, bah non, c'est très bon souvenir ce mariage. Et effectivement, ça arrive de temps en temps et ça me flatte énormément. Voir parfois des personnes qui réservent leur date en fonction de mes dispos. Et là, je trouve que c'est quand même assez magnifique. Ça me met un peu la pression, mais non, c'est super. C'est un très beau compliment. Voilà.
C'est carrément un compliment. Du coup, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ?
Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin ? Mon chien qui pleure pour que je le sorte, hein, raison numéro une, hein, sinon je resterai très longtemps au lit. Non, en fait, clairement, mon moteur, c'est de créer. Alors, pas forcément, malgré tout, créer dans le faire, mais créer dans les idées, dans les projets, dans... Ouais, d'avoir un projet. C'est le projet qui me fait me lever. Voilà, je suis pas forcément... Je suis pas forcément la personne qui s'amuse dans le processus. Alors, le processus photo, c'est quand même un de ceux qui m'éclate le plus. C'est bien pour ça que j'ai choisi la photographie. Mais j'ai toujours été attirée par les métiers artistiques de toujours. J'aurais pu finalement, je sais pas, m'intéresser au théâtre. Enfin, tout. Ma passion quand j'étais petite, c'était de dessiner des maisons et l'intérieur des maisons et où je mettais les meubles. Voilà, je faisais ça, j'avais 6 ans, quoi. Donc, bon, voilà, déjà de base, où j'écrivais des histoires. Enfin, voilà, ça a toujours été créé. Après, finalement, peu importe le moyen. Et ce que j'ai tout de suite apprécié dans la photo, c'est que justement, le process que je trouvais pénible un petit peu dans les autres médiums, comme par exemple, je sais pas, le dessin, la peinture, bah, c'est long pour arriver au résultat. Alors que la photo, ça apparaissait au départ comme quelque chose de très rapide, très instantané, et ça m'arrangeait bien.
Ouais.
Voilà.
Ouais, l'instantané. Et j'ai lu sur ton site internet que tu as croisé à 17 ans la route de ton appareil photo.
C'est ça.
Et que depuis, en fait, cette fascination de capturer l'instant ne t'a jamais quitté. Et ce qui m'a intéressé, notamment dans cette phrase, c'est que c'était pendant ta prépa pour aller aux Beaux-Arts. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait s'arrêter un tout petit peu sur cette période. Qu'est-ce qui a fait, pourquoi les Beaux-Arts ? Qu'est-ce que tu cherchais à cette époque-là ?
Alors, les Beaux-Arts, ça a été très clair, très vite, que c'était mon but, quoi. Enfin, en fait, dès le collège... Bah, une fois de plus, hein, tout de suite intéressée par les métiers artistiques, que ce soit la pub, l'architecture d'intérieur, enfin voilà, tout de suite. Et très rapidement, j'avais un prof d'art plat qui m'avait dit « Mais toi, il faut que tu fasses les Beaux-Arts ». Et alors les Beaux-Arts, ça sonnait comme un endroit, très... waouh quoi, rentrer aux Beaux-Arts, c'était le truc de fou. Ça arrivait pas à tout le monde, c'était... Bon, une fois qu'on y va, je remets pas en cause, hein, mais c'est pas si incroyable que ça une fois qu'on y a mis
totalement
les pieds.
D'accord, ouais.
C'était d'ailleurs très drôle la première année parce que je pense qu'il y a eu une dépression collective au mois de novembre. On s'est dit « Ah ouais, c'est ça les Beaux-Arts, ok, c'est pas ce qu'on attendait. »
Tu veux dire 2 mois après
il y a eu un petit après-coup, je pense, général. Mais en même temps, je le remets pas en cause. Et puis une fois qu'on a compris le système, en fait, si, c'est très très bien. Mais il y avait des attentes qui étaient peut-être pas là où elles devaient être. Mais toujours est-il que voilà, donc c'était mon but, voilà, c'était très clair, aller aux Beaux-Arts. Et après, on verra, mais but numéro 1, aller aux Beaux-Arts.
Et donc, tu n'avais pas un but précis en allant là-bas ?
Non. Enfin, à cette époque-là, quand même, quand j'étais ado, lycée, tout ça, j'étais quand même très intéressée par le milieu de la pub. Et d'ailleurs, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose, même si là, je suis pas dedans, hein, mais qui me parle, parce que c'est très conceptuel, finalement. Les bonnes pubs, hein, bien évidemment, mais... Et c'est, une fois de plus, comme je suis pas quelqu'un qui aime le faire, mais qui aime l'idée, eh ben, le concept, c'est quelque chose qui, effectivement, je pense, c'est pas pour rien que ça m'attirait au départ, et oui. Je trouve quand même qu'à l'heure actuelle... Ça fait partie des métiers les plus créatifs. Finalement, la différence entre un très bon publiciste et un artiste qui est dans une galerie, c'est juste le client en face. Enfin, il y a vraiment des pubs extrêmement créatives, extrêmement belles. Enfin, c'est pas forcément l'esthétique qui compte, mais je veux dire en tout cas qu'on a un vrai concept, quoi. Et du coup, bah voilà, il fallait pour rentrer aux Beaux-Arts préparer son petit dossier. Or, contrairement à toi, moi, je ne sais pas vraiment dessiner. Donc, j'ai pris des cours de dessin, de peinture avant d'y aller parce qu'il fallait bien s'y mettre.
Ah ouais, la pression, quoi.
Ouais, bah après, oui, non, vraiment, j'étais pas du tout le genre de personne où je prends un crayon et bim, ça y est, oh, c'est incroyable. Pas du tout, du tout. J'étais comme tout le monde. Et c'est ça qui est génial quand même dans le dessin. On a beau être très, très nul au départ, plus on s'entraîne. Et si on a l'envie d'eux, on finit forcément par progresser et avoir... sans terminer illustrateur quand même, mais avoir un petit niveau qui fait que voilà, ça va. Et du coup, bah voilà, en préparant mon dossier, j'avais des dessins, des peintures, des trucs. Et puis, je me suis dit, tiens, ce serait cool d'inclure un peu de photos. Et là, c'était le bonheur absolu. Parce que j'étais pas embêtée par...
L'aspect technique.
L'aspect technique, mais ça, c'était une impression de départ. Parce qu'évidemment, Évidemment que la photo, il y a une grosse part technique, clairement. Mais sur le moment, ça me paraissait comme bien plus accessible, bien plus simple. Et puis j'avais tout de suite le résultat, donc c'était génial. Enfin, tout de suite, entre guillemets, puisque c'était à l'argentique, car je suis suffisamment vieille pour avoir commencé avec l'argentique. Et voilà.
Je me suis fait de l'argentique aux Beaux-Arts.
Ouais.
Et du coup, tu te passionnes pour la photo aux Beaux-Arts ?
Oui, alors surtout que, je sais pas si c'est de la... Il y avait peut-être un petit côté psychologie inversée, hein, mais première année, interdiction d'aller dans les ateliers des Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'on... Oui, c'était l'année de un peu mana, un peu mise à niveau, quoi. Donc, on bossait pas mal, on a beaucoup bossé comme cette année-là. Et tous les ateliers, donc il y avait atelier gravure, atelier je sais pas quoi, atelier donc photo, c'était pas pour les premières années. Donc, j'avais qu'une envie, évidemment, c'était d'aller dans ces foutus ateliers en deuxième année. Et là, là c'était génial. Ouais, là, après, du coup, je pouvais aller au labo photo. Et puis là, vraiment, c'est la photo dans ce cas de plus magique. Parce que la photo argentique, c'est quand même...
Ah ouais, c'est magique, c'est clair.
Déjà, la photo de base, c'est magique parce qu'on capture un instant. Enfin, c'est quand même incroyable. Et alors là, d'avoir un bout de papier et la photo vient s'imprimer dessus, c'est quand même... voilà, enfin on s'en lasse pas, enfin je peux pas m'en lasser, c'est incroyable, ça reste incroyable tout le temps, c'est ouais.
Et puis la chambre noire, il y a un côté un petit peu mystérieux, un peu l'image se révèle petit à petit, tout ça.
Ouais, et ça me fait penser aussi qu'il y a quelque chose que je trouve chouette et que dans le labo et ensuite après même c'est quelque chose qui m'attire dans la photo tout court, ce qui est d'ailleurs un style qui moi me plaît mais qui est pas forcément le truc qui va parler à tous les photographes, mais ce que j'aime aussi c'est le silence et le calme. Malgré mon côté un peu fofolle, un peu pleine d'énergie, voilà, en fait, j'aime beaucoup les silences dans la photo. Et du coup, un labo, c'est ça aussi. C'est calme, on est dans le noir, on est concentré, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, il y a d'autres gens, on peut papoter, hein, mais c'est... On est quand même dans un truc assez introspectif, quoi. Ouais, on est dans son petit monde. Ouais, et ça, c'est très reposant. Et c'est vrai qu'après, dans la photo tout court, peu importe, argentique, numérique ou quoi, j'adore ça, quand j'arrive à retranscrire dans des images un silence, entre guillemets, enfin, je sais pas...
C'est quoi un silence en photographie ?
Un instant qui s'arrête. Hein, si... ah, donc ça va être pas forcément des scènes de vie où il se passe plein de trucs. Finalement, c'est quelque part prendre en photo une forme d'introspection qui est vécue par la personne en face. Ah oui, ça c'est... Là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
Mais c'est ce qui se dégage de ton travail, je trouve, en général. Quoi. C'est sûr, quand tu fais un reportage photo, un mariage, tu photographies les gens qui font la fête, etc. Mais quand on va voir ton portfolio, j'ai quand même l'impression que tu mets beaucoup en avant les scènes intimes, les scènes une ou deux personnes, des scènes un peu plus épiques avec des super grands paysages, ce genre de choses. Et moi, ça me parle beaucoup en tant qu'illustrateur. J'aime beaucoup aussi un petit peu ce côté poétique, en fait, au final. Et donc oui, tout ça pour dire que je le vois dans ton... Enfin, je suis pas du tout un spécialiste, mais je peux voir ça, le silence en photographie dans ton travail, quoi.
Et c'est finalement... parfois, on en discute entre photographes et on se rend compte que... c'est un peu triste, hein, mais on n'est pas souvent ému par le travail des autres.
Ok.
Alors, on va le trouver intéressant, on va le trouver techniquement cool, enfin... Il y a tout un pas mal de choses où on va le trouver vraiment très très chouette et là il y a pas de ça va être inspirant pour plein de raisons différentes, mais de là à ressentir une émotion, non.
Ah ouais, intéressant.
Et finalement les seuls photographes où quand je regarde la photo ça me parle, c'est-à-dire que je vais me projeter dans un monde où je vais voilà, et ben c'est ces photographes qui sont dans les silences. C'est cela, après, parce que c'est ma sensibilité. Ouais. Donc, quelqu'un qui est beaucoup plus extraverti, ça peut-être pas forcément être le truc qui lui parle. Mais moi, ça résonne en moi, étant une introvertie, ça résonne.
C'est marrant parce que dans ton travail, je pense presque que je préfère les photos en noir et blanc. Et du coup, t'as une information en moins, t'as la couleur en moins, et on se focalise encore plus sur le jeu des ombres, le clair-obscur, les formes, etc. Ouais, je sais pas si...
Tu vas être déçu parce que j'en fais de moins en moins.
Ah ouais ? Il y a moins de demandes ou
À vrai dire, moins de demandes, je sais pas. Je l'ai jamais formulé comme une demande d'ailleurs. Enfin, c'est pas vraiment un choix que je laisse au client. À ton époque, quand j'avais fait ton mariage, je crois que c'était encore l'époque où j'étais très très généreuse et je faisais la version et couleur et noir et blanc et c'est machin. Cette époque est révolue. Ouais, non, non, maintenant je choisis vraiment celle que je mets en noir et blanc. Et finalement, alors souvent les gens posent la question, mais comment tu choisis ? Et honnêtement, la plupart des photographes, en tout cas surtout pour du reportage, hein. Après si c'est une démarche plus artistique, avec un projet particulier, c'est différent. Mais pour du reportage, de la photo un peu comme ça, non, celle qui est en noir et blanc, c'est celle qui était moche en couleur. Enfin, je veux dire...
Ah, c'est vrai ?
Ah ouais.
Je savais pas.
Ah oui, oui, il y a celle qui était moche en couleur, ou celle... Mais celle-là, elle peut aussi exister en couleur. C'est celle où il y a vraiment un contraste très fort, très marqué. Et là, oui, ça fait un très beau noir et blanc. Le noir et blanc, les gens sont souvent dans cette naïveté de croire que le noir et blanc est forcément plus artistique, plus beau, plus machin. Et en fait, bah, y a des cas de figure typiques où, bah non, le noir et blanc, là, il va être... Enfin, pour mes goûts, après, c'est mes goûts, mais dégueulasse. Pour moi, un noir et blanc en forêt... Il y a tout est des tons sur tons de gris, je déteste quoi. Ouais, ouais. S'il n'y a pas un beau clair-obscur, pour moi le noir et blanc n'a pas d'intérêt. Ou si ce n'est pas un gros plan, un truc sur un visage qui fait qu'il y a un impact. Mais voilà, ça c'est mes goûts. Moi j'aime bien le noir et blanc bien marqué.
D'accord. Oui, bah, le clair-obscur, comme tu le.
Voilà, voilà. Un noir et blanc fadasse, pour moi, n'a pas d'intérêt. Autant avoir des belles couleurs à ce moment-là quoi.
D'ailleurs, moi, quand je regarde ton travail, l'aspect graphique et composition ressort beaucoup. Ça peut faire une boucle avec notamment le fait que apparemment, ton premier métier, c'était graphiste.
Tout à fait. Tout à fait.
Et
parce
du coup,
que...
je trouve ça intéressant parce que, voilà, tu me dis que tu as fait les Beaux-Arts, tu te passionnes pour la photographie. Apparemment, tu deviens graphiste en sortant des Beaux-Arts et tu te spécialises par la suite dans la photographie. J'ai l'impression que c'est une sorte de schéma que je retrouve chez pas mal de créatifs, tu vois, notamment... Dans mon histoire, moi, à la base, j'ai aussi étudié le graphisme et la communication visuelle aux Beaux-Arts. Et puis, quand je suis sorti, j'ai été graphiste pendant 3 ans. Et entre deux, j'ai découvert l'illustration, ou du moins, j'ai redécouvert l'illustration. Et hop, je me suis spécialisé là-dedans. Et du coup, voilà, comment ça s'est passé pour toi ?
Alors, en fait, donc moi, aux Beaux-Arts, j'étais en option art. En gros, option art, comment je pourrais dire ? C'est génial. C'est vraiment génial. Mon regret, c'est de pas... Finalement, j'ai commencé par les Beaux-Arts. Je pense que ça aurait eu un impact différent si j'avais fait une autre école plus terre-à-terre d'abord. Et puis ensuite, les Beaux-Arts, où là, on explore sa créativité, etc. Or, en plus, bah là, on fait les Beaux-Arts à 18 ans. Honnêtement, j'avais pas une maturité de dingue. Hein, donc... Même par exemple le coup des ateliers dont je parlais tout à l'heure, bah j'osais pas trop y aller. Enfin, photo oui, mais les autres non, peut-être pas. Enfin voilà, j'ai cette petite timidité malgré tout qui fait que j'ai pas exploité les ressources autant que ce que j'aurais pu. Mais tout ça pour dire que donc j'étais en option art et là on était vraiment dans le concept pur. Donc c'est génial, je me suis éclatée et j'ai hésité d'ailleurs à continuer parce que je me suis arrêtée au bout de 3 ans à continuer 4e, 5e année, faire mon petit Erasmus. Voilà. Et finalement, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était super, mais que, enfin, il y avait un côté presque que ça finissait par me gêner, parce que je me disais, mais en fait, là, c'est du luxe pur. Je fais des études, c'est du luxe. En fait, je peux pas dire que j'en branle pas une, parce que j'étais en train de m'éclater, de faire mes trucs. Mais j'étais, waouh, enfin, là, je suis en train de faire de l'art, quoi. Donc, c'est bien beau, mais est-ce que j'ai envie que mes parents me financent indéfiniment ce truc-là? J'ai fait 3 ans, j'ai eu mon diplôme, c'était super. Je n'ai pas forcément pour but de devenir, ou en tout cas d'essayer de devenir une artiste coûte que coûte. Est-ce que je vais financièrement leur imposer 2 années de plus, quoi ? Je ne pense pas. Ouais. Donc en fait, je me suis arrêtée au bout de 3 ans. Et là, par contre, c'était du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et je voulais soit partir en école photo, soit en école de graphisme, parce que les deux m'intéressaient beaucoup. Et finalement, en école photo, il n'y en a pas 25 milliards. Donc, je me suis vite rendu compte que soit c'était... Enfin, en tout cas, quand j'allais regarder, voilà, soit c'était Arles, soit c'était des écoles en Suisse qui coûtaient le PIB de la Somalie. Et je dis, ah non, c'est pas possible. Ça va vraiment pas être possible du tout. Et puis Arles... quand je lisais ce qu'il fallait faire pour le concours, ça me paraissait... je me sentais pas, en fait, finalement. Des fois, il y a des trucs où on n'est pas bon. Par exemple, le dessin, j'étais pas bonne, mais je me suis sentie non, mais je vais y arriver. Je vais pouvoir passer mon concours et puis ça va le faire. Puis là, le concours de photo, non. Et puis, tu sais, c'est des trucs bêtes, hein. Il y avait des gens dans ma classe qui étaient plus branchés photo que moi. Et donc, eux, ils pouvaient tenter Arles, mais moi, non. Moi, je faisais des petits balbutiements en photo, donc non. Et donc, j'ai pas fait. Et puis, bref, c'était aussi la conclusion de me dire que, finalement, en photo, je pouvais apprendre et faire par moi-même. Même si j'avais conscience que techniquement, je ferais des erreurs, que ça allait être un petit peu pas parfait, voilà. Mais je me sentais plus de le faire de moi-même qu'en graphisme, où je me disais, bon, là, si je suis pas dans une école, je vais pas apprendre la typo toute seule, quoi. Mais il y a d'autres gens, ils feraient peut-être le process inverse. Mais dans mon cas, c'était ça. C'était de me dire, je préfère qu'on m'apprenne le graphisme, parce que ça, toute seule, j'y arriverai pas. Je vais pas de moi-même me taper des tutos à l'infini. En tout cas, à cette époque-là, c'est comme ça que je le voyais. Et du coup, j'ai bossé pendant un an pour avoir un peu de thunes. Et puis, ensuite, j'ai fait une école de graphisme. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout en tête de devenir photographe. Okay. La photo me servait, puisque forcément, quand on avait des projets qu'il fallait un peu avoir une photo, bah, c'était cool d'avoir des petites bases. Mais c'était pas du tout mon but d'être photographe. Or, déjà, à cette époque-là, vu que j'avais bossé un petit peu, en l'occurrence, sur des mariages, j'avais toujours de la demande. Et les gens étaient « Alors, toujours photographe ?» Ben non, non, toujours pas. Et vu que tu ne me payes pas et que je n'ai pas de matos, ça risque pas d'arriver. Voilà, ça, c'était aussi le truc. Et oui, il y a eu une phase où d'ailleurs, je voulais même pas en entendre parler parce que c'était passé au stade presque du dégoût.
Dégoût de quoi ?
Dégoût des photos, notamment les photos de mariage.
Ok.
Parce que entre la fin des Beaux-Arts et le moment où je me suis lancée en tant que photographe, on voit que le plan a très, très bien marché, hein, quand j'ai dit que je voulais pas être photographe. Mais il y a eu cette phase où, bah, j'avais des demandes, c'était un peu des trucs, pas forcément artistiquement très intéressants. Et puis surtout, il y avait pas de respect, j'étais vraiment pas payée, voire très très mal payée. Puis il y avait juste un côté vraiment, enfin, le pire de ce que ça peut être, hein, quand on parle photographe de mariage, mais vraiment la version la pire, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'étais là, mais en fait, arrêtez, stop, non, j'ai pas du tout envie. Et là, mon but, c'est de bosser dans le graphisme, d'être directrice artistique, d'être là-dedans, quoi.
Bien sûr.
Et puis, j'ai eu mon diplôme de graphisme, ça doit être 2008. Et puis, c'était une phase où, voilà, c'était un peu la crise, tous les budgets comme ils sautaient. Et très courageuse, je me suis dit, oh ouais, j'ai pas trop. En fait, la peur d'avoir un nom en face, enfin, c'est con, hein, mais voilà, j'ai même pas essayé, en fait. Je me suis dit, ouais, non, bof. Donc, j'ai fait mon stage, j'ai bossé un petit peu à droite, à gauche, j'ai bossé un peu en indep. Parce que déjà, dès le départ, bosser en indep, c'était cool parce que c'est moi qui décide si je bosse ou pas. Et j'ai pas le refus d'une boîte qui m'envoie chier. Et ça me paraissait mieux, direct.
Tu veux dire chercher du boulot et t'avais peur du nom?
Ouais, quelque part, tout de suite, un côté de problème de confiance en soi, quoi. Enfin, comme beaucoup, hein. Et en fait, j'avais même pas envie de tenter. C'est con, hein. Mais au final, c'est pour le mieux. Et puis, petit à petit, bah voilà, j'ai commencé à bosser un peu de mon côté. Et puis, j'ai commencé à reprendre la photo. Et à ce moment-là, j'ai redécouvert un peu plus la photo. Et je me suis dit, bah en fait, ok, voilà, je le sens bien. Mais ce sera à mes conditions. Et en tout cas, si je reprends des mariages, ce sera. Je vais travailler d'une certaine manière. Le client, il prend, c'est bien. Il prend pas, au revoir, c'est tout. C'est pas grave, il y en aura d'autres, quoi. Et je suis partie de ce principe-là. Et en fait, ça a tout de suite très bien marché. Et je tiens à dire que c'était pas parce que j'étais très douée. Vraiment pas. C'était juste bon timing. C'est triste, mais c'est tellement vrai. C'était vraiment juste ça, bon timing. Je me suis lancée en 2010. À l'époque, la photo de mariage, c'était vraiment des trucs ultra classiques. Et enfin, je dis ça. Il y avait certainement, déjà à l'époque, bien entendu, des photographes qui devaient être très, très bons. Mais on va dire que l'ensemble, le gros, c'était la photo très kitsch, très posée. Voilà. Et moi, je suis arrivée avec une vision un peu plus moderne où les gens, ça les surprenait au départ de faire un reportage complet. Ça, oh, c'est étonnant, vous venez chez le coiffeur. Bah oui, oui, je fais le reportage de la journée. Et moi, ça me paraissait évident. Ou alors, ah tiens, c'est marrant, tu prends en photo les détails, le paysage. Bah oui, parce que je veux raconter toute l'histoire dans son ensemble. Maintenant, ça se fait, ça s'est normalisé. Mais à l'époque, c'était vraiment la nouveauté. Donc, forcément, comme c'était la nouveauté, bah du coup, malgré toutes les erreurs techniques, le dégueulis de filtres, le vignettage, les effets ignobles, mais qui étaient tellement cool à cette époque-là. Les gens, ils trouvaient ça trop bien. C'était le début d'Instagram, les filtres, machin. Donc, tout le monde adorait ces filtres dégueux. Donc, du coup, là, c'était l'autoroute. C'était gros succès tout de suite. Alors, gros succès tout de suite, mais de quelqu'un qui n'a pas confiance, hein. Donc, les prix, j'avais pas des prix de dingue non plus. Enfin, voilà, j'ai commencé tranquillement, quoi.
Ouais.
Voilà.
Tu dis quand même qu'au début, c'était mauvais ce que tu faisais, mais qu'il vaut mieux commencer en faisant mal plutôt que de ne pas commencer du tout.
Eh ben, force est de constater que oui. Parce que mon côté ex-graphiste, marketing, machin, dirait « Non, mais il faut calculer, tu fais ta sortie, tu l'as fait bien, comme ça, tout de suite, t'as un impact de fou. Voilà. » Mais en vrai, finalement, vaut mieux commencer au bon moment avec toutes les erreurs que ça peut comporter que de vouloir attendre que ce soit parfait pour s'y mettre. Ça, c'est vraiment une erreur. Et ça, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment, vraiment ma chance. Et j'en avais conscience. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais là, bon, on n'est pas non... Parce qu'à l'époque, alors un peu moins maintenant, en tout cas surtout pour les gens qui se sont un peu penchés sur ça, mais vraiment, être photographe de mariage, c'était le truc, la honte, quoi. Oh, t'es photographe de mariage, t'es le photographe de mode qu'a raté, quoi. Et d'ailleurs, à vrai dire, je pense que si j'avais fait une école type Arles, enfin j'en sais rien, je ne les connais pas, peut-être que quelqu'un qui a fait cette école me dirait, mais non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Mais je me dis que il y avait un côté plus, voilà, la photographie d'art ou concept, etc. Et ça aurait été peut-être plus vécu comme un fail après cette école-là. Et d'ailleurs, peut-être que je l'aurais non, pas considéré. Genre, ah non, je peux pas faire photographe de mariage, c'est trop la honte, quoi. Alors que là, je m'en foutais complètement. J'avais pas des potes qui avaient fait photo et qui auraient pu me juger, entre guillemets, ou quoi. Donc, je m'en foutais, j'ai fait ça. Et j'étais convaincue qu'il y avait vraiment quelque chose de très chouette à en ressortir de tous ces mariages. Et ça a été le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est tellement développé. Mais vraiment tellement. Je me souviens, au tout début, les gens me disaient « Bon, bah, vous n'êtes pas dispo, mais vous ne pouvez pas nous conseiller quelqu'un qui fait votre style. » Et je dis « Bah là, y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. » Alors, ça peut peut-être sonner un peu prétentieux, mais à l'époque, c'était vraiment un peu cette impression. Et c'est drôle parce que finalement, les papis, mamies, entre guillemets, de cette nouvelle vague de style photo, on a tous commencé aux alentours de 2010.
Donc, il y a eu un effet de mode.
Il y a eu un effet de mode.
Et toi, tu t'es inséré. Tu avais conscience à l'époque que tu prenais une place dans une niche?
Ah oui, complètement. Mais complètement. Et je me disais, dès le départ, attention ma fille, faut y aller là, parce que les autres y vont arriver et ce ne sera pas les derniers. Hein. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui ont commencé, je ne sais pas, en 2014, 2015, et ils sont super forts. Ils sont 1000 fois plus forts que ce que moi, je faisais. Enfin, je veux dire, si je débarquais là en 2019 avec le niveau que j'avais en 2010, mais ce serait une catastrophe. Mais vraiment, je crois que je pourrais pas. Ça marcherait pas. J'étais vraiment pas assez bonne. Donc, l'intention était là, mon envie de capturer le naturel, tout était là, bien sûr. Le terreau était présent, mais techniquement, tout ça, enfin non, dégueulasse, dégueulasse.
T'es carrément arrivé au bon endroit au bon moment. Quoi.
Complètement.
Et tu l'as fait aussi pour faire plaisir aux potes, si je me trompe pas, au début.
Non. Pour faire plaisir aux potes, pardon, c'était vraiment au tout début, quand les tout premiers mariages. Donc mon tout premier mariage, ça date de 2005.
Ah, d'accord.
C'était vraiment ouais, ça c'était pour faire plaisir aux potes. Mais en 2010, il y avait quand même, c'était passé quelques années et j'étais passée à la phase vous me saoulez avec vos trucs. De toute façon, les potes, vous payez pas, vous en foutez en plus. Enfin, donc merci les potes. Donc non, en 2010. Quand je me suis dit, bon, je fais de la photo, c'était vraiment une démarche plus vraiment personnelle là, à ce moment-là.
Et la photographie de mariage?
De mariage, bah oui, parce que ça paraissait évident, vu que, en fait, j'avais fait en 2005 ce premier mariage qui avait fait des petits, ça paraissait évident que si je voulais générer un revenu, étant donné que j'avais de la demande là-dedans, fallait partir là-dedans. Enfin, la demande était là, il suffisait de dire... Ça y est, je le fais officiellement et les portes étaient ouvertes, quoi.
Ouais.
Donc, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que l'avantage, l'inconvénient, que ça marche tout de suite, entre guillemets, trop bien, c'est que j'ai couru derrière les demandes sans avoir le temps de trop développer peut-être des choses plus personnelles. Voilà, ça a été...
C'est un regret ?
Bah oui et non, il y a rien à regretter en même temps. Enfin, puis si ça vient maintenant, enfin c'est pas grave. Okay. Par contre, le mariage et ça, je sais pas si là dans l'avenir comment ça va évoluer, si j'en ferai moins, plus, je dirais plutôt moins que plus, mais est-ce que je vais complètement arrêter, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une très 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 bonne école. Quand on est un bon photographe de mariage, honnêtement, j'ai envie de dire on peut un peu tout faire. Alors que quand on est, je sais pas, un très bon photographe de paysage, on n'est peut-être pas bon en reportage.
Parlons-en de cette école, justement. On se disait l'autre jour que faire un métier artistique freelance, c'est presque la meilleure école pour aller à la découverte de soi. Et quelles sont les découvertes que tu as faites, vu que tu as dû tout apprendre de zéro, comme tu l'as dit. C'est quelque chose dans lequel je me retrouve aussi. Tu vois, moi, j'ai pas fait une école d'illustration et pourtant je me suis lancé en tant qu'illustrateur et à mes tout début aussi, j'ai même discours que toi, quoi. Genre, j'ai du mal à croire que j'ai eu du boulot au début et que des gens ont bien voulu croire en moi. Et en fait, j'avoue que le chemin, je le trouve passionnant, compliqué, mais passionnant. Et du coup, voilà, y a un véritable sentiment d'accomplissement de soi, de découverte, de prise de risque, de on se casse la gueule, de on recommence, etc. Quel est ce chemin pour toi, du coup? Qu'est-ce que tu as découvert?
Alors, j'ai découvert que la confiance en soi, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des gens qui vont être beaucoup moins bons que vous, mais en fait, ils vont aller beaucoup plus loin et qu'on est très bon pour s'auto-saboter, en fait. Très, très bon. Et j'ai beaucoup pratiqué ça.
Vas-y, développe.
Par exemple, il y a des choses. De toute façon, on le voit depuis le début. Hein, je n'ose même pas postuler de peur de me prendre un nom. D'autres projets photos ou des concours. Par exemple, où j'ose pas y participer de peur d'être trop mauvaise et qu'en fait, on me catalogue dans la case mauvaise et donc je pourrais pas revenir. Donc, il faut que j'attende d'être vraiment très, très bonne pour pouvoir... Voilà, en gros, je vais pas foirer mon entrée, quoi. Parce que je veux pas ensuite avoir la mauvaise étiquette. Enfin, le truc débile. Donc ça m'a... Par exemple, avec le recul, quand bien même j'avais toutes ces erreurs techniques et vraiment... où mon travail était loin d'être abouti au début... Je n'ai pas assez exploité, et pourtant j'en avais conscience, mais je n'ai quand même pas assez exploité le fait d'être avant les autres. Et oui, j'étais pas calée techniquement, mais rien à foutre. S'il y avait de la demande, s'il y avait du truc, j'aurais dû mais tout bouffer, quoi. Mmh. Et en fait, moi, j'ai pas arrêté de me dire « Oui, mais techniquement, les gars, je suis quand même pas au point. Donc non, je vais pas le faire. » Non, mais si on te demande, fais-le. Enfin, c'est tout, quoi. Faut arrêter de se... Et alors, il y a ça, et ça rejoint un peu aussi ce truc... Il y a cette fameuse phrase « fake it till you make it », mais c'est un piège. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le « fake it till you make it » dans le sens où j'ai voulu donner une image de « non, mais je gère mon truc », voilà. Et maintenant, ça fait partie des regrets. J'aurais mieux fait, surtout au début, de dire « non, mais les gars, en fait, je... » Alors, autant j'étais capable de dire « techniquement, je ne sais pas, je ne vais pas me lancer sur ce concours, sur ce truc, sur cette demande, je ne vais pas avoir le niveau, je ne me sens pas de le faire », autant je ne l'assumais pas en mode aller voir d'autres photographes et leur dire « bah apprends-moi, je débute, je ne sais pas, donne-moi des conseils
ouais. ».
Non, c'était « non, non, il faut que je garde une image de meuf qui sait, quoi, même si je ne sais pas, mais il faut que je fasse style ».
Tu te mettais la pression?
Je me mettais grave la pression et en fait, ça m'a fait perdre un temps de fou. Alors que si j'étais allée voir les gens, ça m'aurait fait déjà du contact, du réseau. Ça m'aurait permis d'accélérer le processus, en fait, au lieu de galérer dans mon coin par fierté, par peur de se montrer vulnérable. Voilà, donc j'avais cette sorte de pression de surtout pas montrer aux autres photographes. À la limite, c'est ça qui est en plus... les autres photographes. Mais de surtout pas montrer aux autres photographes que quand même, je galère, quoi.
Et le risque, c'était quoi?
Je sais, se montrer vulnérable. Ouais. Et ça me dérangeait beaucoup. Et il y avait ce côté, non, mais il faut que je fasse style que je trouve une bolosse de la photo. Et ouais, je sais pas. C'est nul, hein.
Et t'as eu un déclic à un moment donné? En te disant, bon, maintenant, j'ai trop besoin des autres?
Non, j'ai fonctionné par... j'ai feinté. C'est-à-dire que du coup, j'ai continué à pas demander aux autres. Mais par contre, à me renseigner beaucoup par moi-même. Je regarde beaucoup de workshops, que ce soit en anglais, en français. J'ai cette chance, comme beaucoup, hein, mais l'anglais, ça me pose pas de soucis. Donc du coup... ça donne un accès, il y a une bibliothèque de données, d'informations qui est immense. Donc c'est cool parce que maintenant il y a des plateformes aussi en France qui se développent. Donc pour des gens qui sont pas anglophones, et ben voilà, c'est super, ça limite déjà moins. Et d'ailleurs moi je suis aussi ravie de ces plateformes françaises parce que ça fait encore plus d'informations. Et puis, il y a aussi des choses, même s'il y a des workshops en anglais très, très chouettes, les gens, le photographe américain, il n'a pas forcément conscience juste de l'administratif français où il pourrait donner des conseils. Enfin, là, il ne va pas pouvoir m'aider, quoi. Donc, sur les plateformes françaises, là, du coup, c'est super cool et je peux gratter des infos. Et voilà, et ça, j'en ai beaucoup, beaucoup regardé, beaucoup vu. Et puis après, il y a aussi, je pense à ça en même temps, mais de faire soi-même des workshops, c'est une très bonne façon d'apprendre, en fait. Parce qu'on est bien obligé de se plonger, mais alors fois mille, dans les sujets, là. Il n'y a plus le choix, là. Donc ça a permis, en tout cas, que je que je retravaille encore certaines choses, de moi-même faire des formations, enfin donner des formations.
De toute façon, la meilleure école, c'est celle qu'on fait tout seul. Hein.
Ah oui.
Parce que moi, je sais que de base, j'étais quelqu'un qui était très... je sais pas faire, je vais demander à quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai jamais eu le complexe d'approcher quelqu'un qui est dans le domaine que j'apprécie et lui poser des questions. Je suis monsieur... Question, monsieur pourquoi, c'est notamment pour ça que je fais un podcast, parce que j'ai plein de questions et j'ai envie d'avoir les réponses à ces questions. J'ai jamais eu de gêne à approcher des gens aussi qui étaient beaucoup plus connus, qui avaient beaucoup plus de bouteilles. Mais il y avait quand même des choses, je sais pas, par exemple, prenons la typographie ou le lettrage, ben, j'aurais été plutôt du genre, ben, moi je sais pas faire, donc je vais demander à quelqu'un dans mon entourage qui sait faire. Et je me souviens, j'ai vu une vidéo, une conférence de... une designeuse américaine, je crois que c'était Jessica Hish ou l'autre, bref, je ne mettrai pas ma main coupée sur le nom. Mais en gros, le nom de la conférence était « Grab the reins and fucking do it yourself ». Et en fait, ça m'a trop parlé. Alors là, c'était beaucoup plus nerdy, c'était sur le code, etc. Vous ne savez pas faire du code, vous avez plein de graphistes à venir du print, ben, en fait, vous pouvez apprendre par vous-même. Et quand j'ai vu ça, j'étais complètement soufflé. J'étais genre, ben ouais, en fait, je sais le faire moi-même. Mmh. Et un peu comme tu viens de le dire, j'ai commencé du coup à ce moment-là à suivre des tutos. Alors pour nos métiers, il y a Skillshare, qui j'étais abonné pendant tout un temps à Skillshare. Et puis simplement des tutos et demander comment on fait, les workshops, ce genre de choses. Et moi, je trouve que c'est la meilleure des écoles. Alors on misère, mais en même temps, ça vaut toutes les formations, quoi. Je veux dire, moi, au final, les beaux-arts, un peu comme toi, vu que ça a une emphase beaucoup plus artistique, ça m'a appris à chercher ma voix, mais en fait ça m'a rien appris d'un point de vue
ça apprend pas grand chose d'un point de vue très concret,
ouais.
Mais par contre ça, en tout cas moi, ça m'a éduqué le regard,
ouais.
Et ça c'est quand même cadeau totalement inestimable. Donc c'est sûr que voilà, d'où la déception parfois quand on va au Beaux-Arts, on s'imagine qu'on va apprendre de manière très concrète plein de choses, et pas du tout du tout. Mais ce que ça nous apprend, ça reste très riche. Donc,
oui, c'est une base, en fait.
C'est une base. C'est une très bonne base. Oui.
Je sais que mon univers s'est ouvert aux beaux-arts, quoi.
Genre, complètement.
Au niveau culturel, au niveau cinématographique, musique, art, design, graphisme, connaître un petit peu l'histoire de l'art aussi, d'où on vient, etc. J'ai emmagasiné, j'étais gourmand, mais de tellement de choses, j'ai tellement mangé de choses que je ne connaissais pas, de toute cette culture. Et je pense que c'est après, au fur et à mesure des années, que j'ai un peu fait le tri. Ça me convient, ça me convient moins, et trouver un peu ma voix. Mais bon, soit. Ouais. Donc, tout ça pour dire que tu es une self-made woman.
J'essaye. Ouais. J'essaye.
Et est-ce qu'on peut se focaliser un tout petit peu sur l'aspect photographie de mariage ? Moi, enfin, photographie tout court, hein, mais sachant que tu bosses pas mal là-dessus, j'ai l'impression que pour les photographes, il faut être hyper flexible, toujours prêt à dégainer, mais aussi hyper relationnel. Et notamment, tu travailles, t'as beaucoup travaillé avec des couples, j'imagine qu'ils sont un tantinet stressés, qu'ils sont super émotionnels ou qu'ils sont fatigués ou plein de choses. Et du coup, je me demandais quel était un peu ce rapport aux gens que tu avais. Notamment, tu parlais aussi tout à l'heure du fait que tu es introverti, alors que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que non, mais je te rejoins là-dessus. Moi, je suis un introverti extraverti. Tout le monde pense que je suis extraverti, alors que vous pouvez demander à ma femme, je suis beaucoup plus introverti qu'on ne le croit. Et pour moi, c'est un véritable effort, en fait, d'aller voir les gens, même si, en fait, je suis un introverti qui adore passer du temps avec les gens. Super bizarre. Bref, je reviens à toi. Donc, du coup, quel est ton rapport aux gens en tant que photographe ?
Alors, les mariages, en l'occurrence, c'est... J'ai quand même cette chance, depuis le départ, de quand même un minimum choisir mes clients. C'est-à-dire que des gens où il n'y a pas de feeling, c'est juste... c'est pas possible. Photographe de mariage, je veux dire, ça demande quand même pas mal de sacrifices. Les week-ends sont flingués, enfin, c'est des horaires lourds. Physiquement, c'est très... Alors, les gens se rendent pas compte, forcément, que la photo, physiquement, c'est difficile. C'est du matériel lourd qui est pénible à porter parce qu'il y a pas... On a beau acheter des harnais, des machins, des sacs magiques qui vous feront pas mal au dos. Non, désolé les gars, 13 heures de reportage, j'ai le dos en compote. Enfin, c'est comme ça. Donc physiquement, c'est difficile parfois. Et alors faire ces sacrifices-là pour des gens avec qui il n'y a pas le feeling, non. En tout cas, moi, j'étais pas prête à le faire. Et puis, je trouve aussi qu'on est dans l'intimité des gens. Et je voudrais... ça, c'est un truc que vraiment, je m'y refuse coûte que coûte. Je ne veux pas me retrouver dans la salle de bain de mamie, voir la mariée en culotte, connaître le nom de son frère, d'avoir la maman qui me prépare le petit-déj. Et en fait, moi, je suis là que pour le chèque à la fin. Enfin, je trouve ça... Là, on est, je veux dire, ça a beau être, ok, c'est un boulot. Et c'est vrai que nous, en tant que photographes, c'est un boulot. Même si pour les gens, c'est le jour de leur vie et qu'ils vivent quelque chose, ça reste un boulot pour nous. Hein, voilà. Mais de là à être là que pour le chèque à la fin, alors qu'on est vraiment, ben, on est chez les gens. Enfin, je sais pas, moi, ça me dérangerait énormément. Donc, c'est pour ça que les gens en qui il n'y a pas le feeling, ça me paraît inconcevable, parce que ça veut dire que si j'accepte, bah, je suis là vraiment que pour le chèque, quoi. Donc non, ça, c'est pas possible pour moi. Du coup, ça veut dire que c'est des gens avec qui... Ça veut pas dire qu'on finit tous potes, hein. Il y en a avec qui on devient amis, effectivement, mais il y en a d'autres, ça reste un rapport plus professionnel. Mais il y a quand même une bonne entente, quelque chose, quoi. Et du coup, avec les mariés, je n'ai pas trop de soucis. Alors après, ils me disent tous la même chose, en tout cas à 95%, qu'ils n'ont pas l'habitude de poser, que ça va les gêner, que voilà. Et moi, ça me passe dessus comme... voilà, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, parce que je sais faire poser les gens, donc ça me pose pas de soucis, en fait. Et puis en plus, un couple, c'est très très facile, il suffit juste d'être ensemble, finalement. À partir du moment où eux sont bien ensemble, voilà, c'est bon, le job est fait, faut pas chercher midi à 14h, ça reste quand même très très simple. Et puis il y a des petites astuces qui permettent de... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait faire quelque chose aux gens, où ils ont pas besoin de réfléchir, où est-ce qu'ils regardent et où est-ce qu'ils mettent leurs mains, le job, il est fait. Parce que finalement, c'est ça le problème quand on pose. On ne sait pas où regarder, on ne sait pas quoi faire de ses mains. Donc, s'il y a des instructions là-dessus, après, tout roule. Donc, mon rapport avec les mariés, il est toujours super chouette, toujours agréable. Ouais, enfin, moi, j'ai que des bons souvenirs avec mes mariés.
Et du coup, c'est quoi les bons ingrédients pour un reportage de mariage réussi, selon toi ?
Alors, le lieu joue énormément, ça, c'est sûr. Il y a des lieux qui n'ont pas de potentiel, hein, donc ça complique la tâche. Mais vraiment, et ça malheureusement personne peut le maîtriser, c'est la lumière. Pour moi, c'est la lumière. Une bonne photo, c'est une bonne lumière. Et ça, ça on maîtrise pas, quoi. Donc parfois il y a des lieux super, mais finalement il s'est pas passé un truc spécialement intéressant, spécialement sympa. Donc voilà. Et des fois il y a des lieux un peu pourris, mais il y a le rayon de soleil qui change tout. Ou je sais pas, ou une ambiance, ou je sais pas, n'importe quoi, du brouillard, enfin quelque chose qui fait que d'un coup il y a une ambiance qui se met en place, et là c'est génial. Donc ça, c'est vraiment pour le côté un peu technique, esthétique, voilà. Mais après, il y a évidemment ce que les gens donnent, et moi je leur explique toujours, c'est qu'à un moment donné, je fais un reportage. Donc si tu fais la gueule du début à la fin, je peux pas faire de miracle, en fait. C'est sur typiquement les photos de groupe, la belle-mère qui tire la tronche, ben désolée, mais je peux pas lui mettre un sourire.
Et tu détestes ça, les photos de groupe, hein.
Les photos de groupe peuvent être dans la douleur. Ben enfin après non, c'est pas vrai. Il y a des photos de groupe qui peuvent être très sympas. C'est juste que ce qu'il ne faut pas faire pour les photos de groupe, c'est de devoir torcher des photos de groupe en 10 minutes dans un endroit pourri avec des gens qui n'écoutent pas. Ah, et avec un public autour qui distrait les gens qui sont sur la photo. Et là, ouais, ça devient vite l'enfer. C'est très, très pénible. Mais il y a des photos de groupe qui peuvent être très, très chouettes. La preuve en est, quand on fait, je sais pas, des photos d'un groupe de musique, c'est des photos de groupe. Et ça peut être génial. Donc, c'est plus le contexte qui, parfois, peut amener des difficultés. Ouais.
Ouais. Et sinon, une autre question que j'aurais voulu te poser, c'est... Quelles sont certaines des réalités du métier de photographe que tu crois qu'il gagnerait à être plus connu, quoi, photographe freelance notamment?
Alors, en tout cas, c'est un truc qui s'est posé pour moi et qui, je pense, va être le problème pour beaucoup de personnes. Un aspect très concret et très pénible qu'on ne voit pas forcément venir au départ quand on se lance un peu comme ça et puis qu'on fait une petite auto-entreprise et puis voilà, c'est qu'en fait, le statut de photographe est un des pires qui existent. Vraiment, parce que les statuts d'artiste, d'illustrateur, c'est déjà compliqué et tout, mais c'est quand même cadré de manière plus simple. Le statut de photographe, c'est... franchement, ils peuvent pas faire pire, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On n'a pas un statut comme, je suis illustrateur, non. Le statut de photographe est dépendant du type de clientèle. Donc, si je travaille pour les particuliers, je suis photographe artisan. Parce que c'est du social, c'est la photographie qu'on appelle photographie dite sociale, et donc je suis artisan.
Et si je fais plus de photos avec la session droit, je deviens photographe auteur. Mais ça, la session droit, on ne peut pas la faire pour les particuliers. Donc, c'est un micmac administratif monumental. Et quand on fait, justement comme moi, un peu de tout, ben ça, c'est très, très compliqué de s'en sortir, en fait. Donc, il faut s'entourer de personnes bien calées sur le sujet, parce qu'en plus, la plupart des comptables, etc., les milieux artistiques, c'est pas forcément ce qu'ils maîtrisent le mieux. Donc, il faut beaucoup se renseigner. Ça, c'est un aspect où on se dit, oui, mais nous, on est un peu artiste, on fait notre truc, c'est super, je maîtrise bien la photo. Bah, en fait, être en free, c'est surtout se mettre bien, bien la tête dans des trucs bien chiant de gestion, d'administratif, de voilà. Donc ça, c'est un aspect qui est peut-être c'est sûr, hein, c'est pas la partie glamour, hein, c'est évident, mais c'est ce qui permet de mieux s'en sortir, parce que si on choisit un bon statut, on aura moins de charges. Par exemple, si j'avais su à quel point bosser pour les particuliers, ça allait être le statut qui allait le plus me plomber, est-ce que finalement j'aurais fait ce choix d'un point de vue vraiment purement stratégique pécunier? Peut-être pas, en fait, parce que c'est celui où on est le plus taxé, c'est juste l'horreur. Voilà, donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect, effectivement, de gestion, en free, alors bon en tout, c'est exagéré, parce qu'on peut pas être le dieu de la compta, de la photo et de je sais pas quoi, mais il faut au moins maîtriser un tout petit peu. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie à améliorer ma technique en photo, etc. Voilà, vraiment, apprendre. Et peut-être pas assez dans le « faut que je sois une meilleure gestionnaire, donc il faut que je me forme plus à la gestion ». Ouais, ça, c'est encore un truc où je me dis, ouais, il y a du chemin là, pour tout le monde, quoi. Donc, c'est tous des petits aspects où on se dit « non, mais moi, je suis photographe, je fais ma photo ». Oui, mais il faut savoir se vendre, Et alors, il faut surtout, ça j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, bien gérer sa communication. Si on ne nous connaît pas, on ne nous book pas. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, je connais des photographes qui, malheureusement, se refusent parce que ça les branche pas, ils n'aiment pas passer du temps là-dessus, ils se refusent de communiquer sur les réseaux. Et du coup, ont très peu de clientèle. Mais c'est couru d'avance. Enfin, je veux dire, pour les personnes qui n'aiment pas ça, à l'heure actuelle, oui, c'est compliqué de s'en sortir sans ça. Donc, il faut quand même avoir une bonne conscience que la partie, et c'est comme dans tous les métiers artistiques, évidemment, la partie vraiment de ce qu'on fait, ce qu'on aime, la créa, etc., c'est la partie visible de l'iceberg. Et il y a tout le reste et qu'il ne faut vraiment, vraiment pas négliger.
Mais c'est marrant parce qu'on vit dans une période presque paradoxale au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'on vit dans un temps, notamment grâce aux réseaux sociaux, où on n'a plus entièrement forcément besoin des middlemen, comme on dit en anglais, des agents, des producteurs, enfin, je ne sais pas si c'est les producteurs, mais bref, les gens entre deux. On peut faire tout soi-même, mais vu qu'on est plein de débutants ou qu'on doit apprendre, on peut faire les choses maladroitement, et du coup, il faut apprendre au fur et à mesure. Enfin, c'est marrant, je trouve, cette approche. La communication, elle est hyper importante, c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde ne sait pas le faire.
Totalement. Et il y a un truc... la communication, c'est la clé, hein, vraiment. Et je vois, par exemple... Et ça me fait vraiment super plaisir. Et si parmi les auditeurs, il y en a de cette époque, franchement, je peux que vous dire mille fois merci. Mais il y a des gens qui me suivent depuis le tout début. Et la raison pour laquelle ils suivent, je pense, c'est que certes, ils apprécient mon travail, mais ils apprécient mes punchlines. Non, mais c'est ça. La raison pour laquelle les gens accrochent, c'est vraiment la personnalité au final. C'est ça qui fait l'attachement. Et quelque part là-dessus, je pense qu'à un moment donné, moi, vu que j'ai tapé dans une clientèle plus haut de gamme et que je suis quelqu'un dans ma vie de tous les jours qui est pas forcément très... je suis quelqu'un de simple, en fait. J'ai eu peur dans ma communication d'être trop... d'être trop avec mon humour, avec mes putains merchiers, d'être en désaccord avec la clientèle que j'allais viser. Et donc, je me suis un petit peu auto-censurée. Et finalement, là, je me dis, non, mais en fait, on s'en tape. Si les gens, ils accrochent, ils suivent, et s'ils suivent depuis toutes ces années, c'est vraiment pour ça.
Mais oui, c'est la personnalité, c'est sûr. Parce que des belles photos, tu fais des magnifiques photos, tout comme d'autres personnes qui font des magnifiques photos.
Complètement.
Par contre, ta personnalité, elle est unique.
Et c'est d'ailleurs, c'est là, et on le voit à titre personnel, les gens que je suis, c'est pour ces mêmes raisons. C'est ceux où je peux mettre un visage et où je rigole de leurs trucs, voilà, bah c'est ceux que j'aime suivre, tout simplement. Et là-dessus, voilà, moi là, il faut que je... j'ai conscience qu'il faut que je... Même par exemple, voilà, le mettre un visage, je suis la première à mettre très peu de visage, où j'aime pas spécialement montrer plus que ça, mais où je me dis, bon, voilà, il faut que je fasse un petit effort là-dessus, parce que c'est un échange et que... Et voilà, donc le conseil, clairement, c'est il faut donner sans forcément se transformer en blogueuse mode, mais où il faut juste créer un lien en fait avec les gens, et en plus c'est un lien qui est chouette et ils le rendent fois mille, donc c'est il y a aucune raison de s'en priver.
Mais il y a tout un art à le faire. Je pense que si t'es pas authentique, si ça vient pas de toi vraiment, si c'est surfait, les gens ils le savent et
complètement
et ils te lâchent quoi.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et j'ai un ami qui dit, notamment pour les illustrateurs, mais je pense peut-être pour les photographes aussi, que l'un des métiers les plus proches du nôtre, c'est celui d'humoriste, de stand-up. Et au final, des gens qui font des blagues, il y en a plein. Mais en fait, tu vas suivre ou écouter telle personne parce que tu aimes bien ce qu'il ou elle dit. Et oui, et en fait, les illustrateurs, le photographe aussi, hein, j'arrête pas de me répéter, mais on vient et en fait, on est dans le don. J'ai bien aimé que tu parles justement ça du don, c'est... Tu viens, tu donnes une phrase marrante. J'ai un ami qui dit notamment ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est plus forcément l'argent, c'est l'attention. Mmh. Les gens recherchent une émotion, quelque chose qu'ils apprennent, quelque chose qui les divertit. Et moi, je sais qu'en tant qu'illustrateur, fut un temps, je refusais de faire les trucs gratos parce que non, genre ça se fait pas de bosser gratuitement, etc. On a déjà eu cette discussion d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, que de créer des choses vraiment personnel et que ça me fait kiffer et je vais le donner. Je vais dire, voilà, aujourd'hui, je vous donne cette petite réflexion, cette petite image pour vous attendrir, ce truc pour vous faire marrer. Et si c'est gratuit, il n'y a pas de lien derrière à cliquer pour je ne sais quoi. Par contre, et si vous en foutez, tant pis, je reviendrai demain. Et donc, il y a vraiment ce côté pour moi, la communication. On parlait de communication. Moi, je me mets en scène, c'est vraiment moi. Mais comme les humoristes, c'est moi sur la scène. Mike Stefanini, qui est aussi passé sur ce podcast, il dit notamment, on voit un petit morceau de sa vie. Et on voit, si on va à gauche ou si on va à droite, on voit pas le bordel dans sa chambre.
Oui, oui, oui.
Mais juste le petit morceau que tu leur montres, c'est vraiment toi. Hein, tu m'étonnes pas. Mais c'est une sorte de mise en scène, tout comme un humoriste. Il est là, en chair et en os. Je sais, je m'étale là, mais j'aime bien ce côté, en fait. Je suis ma propre marque, en fait. Et je suis ma... C'est moi que je vends.
Complètement.
Et en même temps, j'ai envie de donner. Et quand les gens sentent qu'ils reçoivent, ils ont envie de te rendre l'appareil, en fait. Et prenons, je ne sais pas, t'inviter pour un reportage, par exemple. Ou me demander, c'est fun ce que tu fais. Est-ce que je pourrais te confier des illustrations pour tel ou tel projet? Qu'est-ce que tu en penses de tout ce truc, de ce monologue que je viens de faire?
Non, mais déjà, y a des gens, tu vois, ils me contactent en me disant, je vous suis depuis le début, quoi. Et j'ai toujours... Et en fait, pour eux, la décision, elle a été prise en 2010. Elle a été prise en 2010, 15 jours. Quand ils auront besoin de photos, ils feront appel à moi. Je trouve ça dingue. Et c'est parce qu'il y a eu ce rapport affectif, finalement.
Affectif, ouais.
Ouais. Et par contre, tu vois, une réflexion que je me faisais pendant que tu parlais, je me dis, mais en fait, c'est super tout ça. Et le côté très triste, par contre, et c'est ce que j'ai vécu, c'est pour ça, ça a été un double truc. Un, je savais plus trop comment communiquer avec ma cible. Et c'était pile la période où Facebook est devenu 100% merdique et où tu postes un truc et personne ne le voit. Et alors là, tu te dis, en fait, si je parle à un mur, pourquoi parler? Et il y a eu vraiment une phase où j'ai arrêté de parler. Et ça me désole un peu, tu vois. À un moment donné, j'ai coupé le lien, quoi.
D'accord.
Et c'était entre le moment où finalement Facebook était en train de mourir pour moi et où j'étais pas encore vraiment sur Instagram.
Ah.
Mais ce qui est un petit peu pénible avec ces réseaux, c'est à la fois génial parce que moi j'adore quand je poste une story et que les gens réagissent. Mais franchement, c'est génial. Enfin, je réponds toujours, quoi. Je réponds toujours. C'est un autre. J'essaie. Parfois, je veux dire, sur les réseaux, il y a quand même cette espèce de petite. Je dis vague, mais cette espèce de petite inbox cachée là où tu rates des messages. Bon, voilà. On s'en fout. Toujours est-il que on est complètement dépendant de ces réseaux à la fin parce que si l'algorithme nous fout dedans, la communication, elle est rompue. Et ça, c'est, ça me, c'est, je sais pas quoi faire avec ça, quoi. Faut continuer à le faire, mais faut continuer à développer. Tout. En fait, faut, je pense, taper partout. Faut communiquer sur son site, faut communiquer sur les réseaux, faut malgré tout continuer à faire vivoter Facebook. Faut utiliser les stories. Faut essayer de faire entendre sa petite voix par un moyen ou par un autre. Et voilà. Mais ça, c'est vrai qu'on est dépendant de cet algorithme et de merde.
Et se voir en vrai aussi.
Et se voir en vrai.
De nouveau, un ami qui disait, si t'as besoin d'une babysitteuse ou d'un babysitter, t'as beau aller sur babysitter.com, genre le numéro 1 de référence en France, avant de confier ton enfant, tu vas d'abord demander à tes parents, puis tes frères et sœurs, tes super amis, puis finalement, s'ils sont pas dispo, tu vas peut-être demander à ta voisine ou à ton voisin, parce que tu les connais. Ça se trouve, ils seraient des bien moins bons babysitters que babysitteuse.com, mais tu vas que aller à la fin demander à la personne virtuelle au final. Et quelque part, la communication sur les réseaux
sociaux. Mais là, c'est hyper intéressant ce que tu soulèves. C'est que, en fait, la clientèle, c'est toujours le bouche à oreille. Alors, il y a le bouche à oreille comme on peut l'imaginer de base. Mais pour qu'il y ait pour moi en tout cas, qu'il y ait un acte de vente, ça passe par un intermédiaire de confiance. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, l'intermédiaire de confiance, c'est un ancien client, c'est un pote, c'est, voilà. À plus grande échelle, c'est un blog, c'est un magazine qui référence. C'est, je sais pas, un DA, c'est n'importe quoi. Mais il y a, c'est rarement le cas que les gens me contactent en mode que ça vient de nulle part, quoi. Genre, ils ont tapé photographe sur Google, mon nom apparaît et bim, ils me contactent. Il y a souvent un renvoi voilà, il y a un tiers au milieu, que ce soit un particulier ou une structure, qui valide et qui donne l'aspect de confiance nécessaire pour que la personne se dise, OK, c'est quelque chose de sérieux, quoi.
On en revient toujours à la confiance.
Toujours à la confiance.
C'est le thème de cet épisode.
Eh oui.
Mais c'est vrai, moi, je te connaissais pas. C'est Madeleine qui m'a parlé de toi. Qui était genre, je veux que ce soit Elodie Winter qui photographie. Ah, très bien, pas de problème, tu vois.
Mais Madeleine me connaissait par connaissance.
Ouais, c'est sûr. Je sais pas par qui.
Je me souviens pas non plus, mais c'est comme on a, voilà, un réseau commun, j'imagine que.
Ouais, c'est ça. Ouais. Que dirais-tu aux gens qui auraient tendance à ne voir en toi qu'une photographe de mariage?
Alors, je leur dirais que c'est en partie de ma faute, parce que j'ai beaucoup communiqué là-dessus, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus tu communiques dessus, plus tu as ces demandes-là, plus tu as aussi une sorte d'attente sous-jacente où les gens vont attendre ce genre d'image, et tu le sais, donc tu as envie de leur donner, parce que tu as envie d'avoir tes petits likes qui vont avec, hein, c'est con, mais c'est comme ça. Mais oui, non, je fais bien autre chose que de la photo de mariage, et depuis toujours, puisque tout m'intéresse. Et que j'ai envie de savoir tout faire en photo, donc et parce que le mariage, pour le coup, m'a dans un sens formée à pouvoir à peu près tout faire. Et ça, c'est quand même génial.
C'est une école en fait.
C'est une très bonne école. C'est une très bonne école pour le reste, complètement. Ouais, parce que c'est une activité. On fait de tout dans une journée de mariage. Donc si on en admettant qu'on le fasse bien, ça veut dire que potentiellement, on peut du coup faire bien plein d'autres choses que juste du mariage. Voilà, et ça aussi, ça rejoint un peu la liste conseils. De ne pas hésiter finalement à faire des projets gratuits. Vraiment pas du tout hésiter, parce que parfois, ça a été mon cas, hein, par exemple, dans tout ce que je fais en photo d'archi, souvent, je suis un petit peu coincée parce que je n'ai pas forcément le droit de communiquer dessus. Donc, comment je peux ensuite, sans pouvoir montrer les images, dire que je fais ça? Ça complique. Donc, j'ai été obligée plusieurs fois, pour un tout petit peu montrer quand même, de faire des choses gratuitement, dans le seul but de pouvoir créer des images pour pouvoir les montrer derrière.
Oui.
Voilà.
Moi, j'ai la même approche. Hein. Enfin, je fais des illustrations gratuites, entre guillemets, soit pour quelqu'un, soit pour moi. Je crois majoritairement pour moi quand même. Et mon but, c'est qu'en les montrant, on m'approche pour des vraies commandes dans ce style-là. Et du coup, je suis genre,
exactement.
Ouais, c'est ce que je voulais, quoi.
C'est ça. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Les gens qui disent, oui, mais moi, j'ai pas cette demande-là. Mais c'est non mais tu prends ton appareil et tu y vas. Et globalement, là tout à l'heure je parlais de la feignantise, mais non mais en fait faut pas être feignant hein. Déjà. C'est simple, hein, c'est le premier truc, c'est là, c'est de, d'être travailleur, de, ça se voit dans tout, ça se voit dans le, au moment du shooting, de pas être feignant. Il y a un truc qui est pas beau dans la pièce, bah, tu prends tes pieds, tu prends tes mains, tu l'enlèves, tu le déplaces, tu le remettras à la fin. C'est d'avoir cette rigueur-là de bah, voilà, tu ranges ton appareil, à ce moment-là, il se passe un truc de dingue, et bah, tu le ressors. Et tu voilà. D'être dans cette non-fainéantise et...
Ça s'appelle le professionnalisme.
Oui, mais qui n'est pas inné chez tout le monde. Donc,
ça s'apprend. Quoi, ouais.
Il faut quand même le souligner.
Ouais. Ouais.
Et cette envie de faire, cette envie de créer. Et du coup, ouais, si ça ne vient pas tout seul, crée-le toi, donne-toi ce travail-là et ça sera récompensé à un moment donné. Hein.
C'est ça. Mais de toute façon, je pense que les projets passion sont communicatifs. Enfin, les gens ont envie de... Moi, je sais que les projets perso, c'est un tiers de mon travail. Et je mets un tiers de mon énergie dans les projets perso parce que c'est eux qui génèrent l'autre tiers qui est rémunéré et qui m'amène...
Et qui, en plus, qui nourrit.
Qui nourrit. Mais c'est aussi... c'est là où il y a un peu la limite enfin, entre le travail d'auteur et le travail de commande. Et pour les illustrateurs, ben, notamment, le vrai statut en France, c'est auteur-illustrateur. Moi, j'ai un copain qui dit que quelque part, ses commandes, il les fait uniquement pour faire des projets perso. Et il fait plein de choses vraiment super intéressantes, des choses qui l'éclatent, qui ne sont pas forcément rémunérées directement. Mmh. Ça l'est indirectement. C'est la chose que beaucoup oublient, c'est que ça rémunère indirectement. Mais ce n'est pas vu, en fait, les gens ne comprennent pas forcément toujours.
En fait, le principe, et c'est ce que j'ai toujours fait, il faut semer. Il faut semer. Il n'y a pas de récolte sans avoir semé. C'est aussi basique que ça, quoi.
Ouais.
Quand j'ai eu mes... Alors là, j'ai un exemple. Alors, je reprends le côté photo de mariage, mais parce que c'est très concret. Je suis allée aux États-Unis en vacances. Et évidemment, mon rêve, comme beaucoup de photographes, c'était... parce qu'un photographe de mariage, à l'heure actuelle, c'est aussi ça. C'est l'occasion de voyager aussi. Donc, j'ai pu, du coup, faire un mariage aux États-Unis, au Brésil, enfin, dans des endroits super. Mais pourquoi ça s'est fait? Parce que la première fois que je suis allée aux États-Unis en vacances, évidemment, bah, personne me connaît, donc personne me book. Ça paraît assez logique. Mais je suis, voilà, ma copine qui m'accueille est enceinte jusqu'aux yeux. Et on est en train de se balader. Je lui dis, bah, évidemment, que telle une touriste, j'ai mon appareil autour du cou. Donc je dis, attends, mais c'est super beau cet endroit, je te prends en photo là. On fait quelques photos de manière totalement improvisée. Ces photos sont vues par des gens de sa fac, de son école, etc. Enfin bref, les gens le voient. Une nana me contacte pour son mariage. Bon. Par un concours de circonstances, ça ne s'est pas fait, ce mariage-là, à ce moment-là. C'était un petit peu, ça s'est annulé une semaine avant. Mais j'étais déjà aux États-Unis, donc j'étais contente, ça va. J'ai quand même eu mes vacances. Bon, bref, voilà. Mais donc, ce mariage-là ne s'est pas fait, mais il y a eu encore une autre personne, toujours grâce à ces photos de grossesse, qui m'a contactée. Et là, j'ai fait le mariage aux États-Unis grâce à ça. Mais ça n'arrive que parce qu'à la base, je me suis dit, tiens, bon, après, c'était assez... Ça s'est fait très naturellement, mais je veux dire, si j'étais en mode grosse connasse, je bosse que quand je suis payée, et si je suis pas payée, bah tu vas te faire voir, bah pas de photo de grossesse, pas de mariage derrière.
C'est vrai.
C'est aussi basique que ça, quoi.
Donc on en revient au don, à la générosité, à pas être fainéant, au volontariat.
Oui. Ouais. Et en plus, ce qu'il y a quand même, là où franchement, il n'y a vraiment pas de raison de se limiter, c'est que non seulement, quand on sème, potentiellement, mais c'est pas toujours le cas, mais potentiellement, on peut récolter, et pendant qu'on est en train de semer, vu qu'il n'y a pas de contraintes, c'est quand même le côté plaisir.
C'est clair.
Faut pas l'oublier. C'est qu'a priori, on est censé kiffer quand même à ce moment-là, parce qu'on maîtrise, on fait ça pour le plaisir. Et voilà.
Ouais.
Et c'est quand même aussi les projets, quand bien même, c'est pas semer. Et voilà, il y a aussi ça. Quand bien même derrière, il n'y a pas forcément une récolte directe, et ben ça reste les projets que je suis le plus contente de montrer parce que j'ai pu maîtriser, parce que j'ai pu faire ce que je voulais et que c'est un super confort quand on est dans du visuel. Donc,
Moi, je sais que dans mon esprit, je suis toujours à trois vitesses. Il y a l'immédiat, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et je pense que la guerre des nerfs, c'est de continuer à maintenir, à semer des choses sur le long terme. Et puis parfois, quand à court terme, ça devient un peu tendu, un petit peu compliqué. C'est pas facile de garder cette vision long terme mais il y a des choses à devoir régler tout de suite. Bref, je dis ça parce que tu me parlais de récolter, et je sais que dans ma pratique en tant qu'illustrateur, c'est pas facile, mais j'ai vu que ça porte vraiment du fruit. C'est tu sèmes, tu laboures et tu récoltes en même temps. Tout ça en même temps, alors qu'en fait, la tendance, surtout en tant que créatif, c'est genre, je suis dans une super saison, prenons, genre, je suis dans un super mood créatif, et boum, t'as un super projet, boum, 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 tu aperçois une commande, tu bourrines, tu laboures, mais t'oublies de semer à côté, et t'oublies de récolter derrière. Et je sais que moi, j'essaie de travailler mon travail personnel, ouais. J'essaie de faire du démarchage et de travailler mon réseau en même temps. Et j'essaie aussi de récolter, c'est-à-dire de faire mes commandes, payer, etc.
À un moment donné, alors là, tu vois, à un moment donné, tu vois, j'ai été trop là-dedans. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, 2010, ça marche super tout de suite, j'ai plein de demandes. Voilà, tout de suite, ça marche super. Et Facebook, la communication, nickel, ça se passe très, très bien. Pareil, nickel. Et en fait, est arrivé un moment donné où j'étais à fond des commandes, les unes derrière les autres et tout, donc pas spécialement le temps de communiquer. Et en même temps, c'est pas grave, puisque je continue à avoir plein de demandes, donc je m'en tape, quoi, c'est pas grave. Et au pire, ça m'en fait même un peu moins, c'est pas plus mal, je gère un peu mieux. Ouais, mais c'est con, parce qu'à ce moment-là où j'ai mis un coup de frein, c'est le moment où la concurrence s'est réveillée fois 1000. Donc, ça m'a pas pénalisé en mode, ça y est, je dois mettre la clé sous la porte parce que j'étais bien avancée, mais je suis descendue du train à un moment donné. Parce que j'ai oublié que là j'étais sur mes acquis et c'était super, ouais, mais c'est l'acquis de maintenant tout de suite, là c'est pas l'acquis de demain du tout, hein. Donc l'effort il est continu, et ça aussi c'est un truc qu'il faut avoir conscience, c'est que il n'y a pas d'oasis les gars, c'est le travail, la marche elle est continue, tu marches pas, ça veut dire que en fait, c'est ça, c'est un train en marche. Donc, si toi, t'es pas dedans, c'est-à-dire que t'es sur le quai. Et si t'es sur le quai, c'est trop tard pour toi. Enfin, t'es obligé d'être dans le mouvement, d'être dans la recherche, d'être dans le... on ne stagne jamais. T'avances ou tu recules. Tu ne stagnes pas. Donc, du coup, ça laisse pas beaucoup le choix, quoi. Si tu veux pas reculer, t'es bien obligé d'avancer, donc...
Mais tout ça, tu le sais pas au début.
Non. Non, non. Ou en tout cas, t'en as pas suffisamment conscience.
Non. Et puis... C'est normal, je pense, que quand tu as un flot de travail continu, que la com fonctionne, que les gens te font des commandes, tu ne penses pas à semer, labourer, récolter en même temps, jusqu'au moment où la source se tarit un petit peu.
Exactement.
Et tu te demandes comment ça se fait. Et je pense que, en fait, tout se joue dans ces temps de transition-là, et pas avoir peur de se renouveler, en fait, et de changer, de s'autoriser. Il y a des choses qui fonctionnaient pendant un temps. Par exemple, tu me disais tout à l'heure que... la photographie de mariage a été... Il y a eu un gros boom en mode photographie à la mode. Quelqu'un qui refuse de reconnaître qu'on n'est plus en 2010, pour pouvoir continuer son activité, il y a besoin de se renouveler et d'avoir les yeux devant les trous, quoi.
Je pense que... Parce que la question, souvent, les gens disent « Ah, mais il y a beaucoup de photographes, le numérique... » Et ça, c'était des questions même au début. « C'est pas trop dur ?»« Jamais trop dur de quoi ?» Non, pas du tout. Alors que, effectivement, si j'avais été un photographe qui a commencé dans les années 2000, qui s'est jamais remis en question jusqu'en 2010, et en 2010, il y a la nouvelle vague qui débarque, bon courage là, mon gars, hein, parce que si tu te mets pas dans le train, là, et tu te remets pas en cause, mais c'est au revoir. Ah oui, là, pour toi, ça va être très dur, très, très dur.
Ouais.
Ouais. Voilà, pour le mariage.
Pour le mariage. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu travailles en tant que photographe pour une agence d'audiovisuel. Mmh. Donc, tu as été freelance depuis 2010,
ouais.
Donc 9 ans. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir un emploi à plein temps plutôt que le freelancing ?
Alors, déjà, je n'ai pas arrêté mon activité freelance, hein, même si forcément elle est réduite, puisque les journées ne sont pas faites de 48 heures, donc j'ai bien été obligée de réduire. Mais c'est quand même pour moi très important de garder une partie en free. Ça, c'est, ouais. Je dirais même vital. Et par contre, ce qui m'a poussée à prendre ce poste, déjà, en fait, on me l'a proposé. Hein, je ne l'ai pas cherché, mais on me l'a proposé. Donc forcément, on y réfléchit à deux fois avant de refuser. Il y avait pas mal d'aspects. Il y a déjà, on va pas se mentir, l'aspect financier, c'était quand même une bouffée d'air frais. Il y a aussi que ça m'apportait toute une expérience supplémentaire, et comme je suis quelqu'un Là, on a beaucoup parlé que je fais des photos de mariage, mais je fais aussi tout un tas d'autres photos, que ça peut être la photo culinaire, la photo d'archi, la photo d'entreprise, enfin de tout et n'importe quoi. De ce fait, là, c'était un beau terrain de jeu parce que j'avais du matériel auquel j'ai pas forcément accès, ou en tout cas, ça va me prendre quelques années avant de pouvoir me le payer moi en free. Donc là, j'ai une bibliothèque de matériel incroyable, et puis c'est un studio, donc j'ai un plateau pour moi magnifique sur lequel je peux faire ce que je veux. C'est quand même un confort. Si moi je veux l'avoir moi, là tout de suite ça va pas être possible. Donc c'était d'avoir accès à des moyens super qu'il m'aurait fallu 15 ans de plus pour pouvoir y arriver avec mes petites mains. Et puis techniquement, il y avait aussi toujours cet intérêt quand même, parce que je suis pas non plus une malade de technique, hein, c'est loin de là. Mais en tout cas, j'ai pas du tout envie d'être dans le stéréotype, parce qu'il y en a quand même un, de la femme photographe qui ne veut pas s'intéresser à la technique et qui veut, non, mais la technique, c'est pas pour moi, c'est un truc de garçon, puis moi, je fais à l'instinct. C'est un truc qui m'énerve énormément, parce que ça laisse la belle place, finalement, à ceux qui s'intéressent à la technique. Et donc, aux hommes, majoritairement.
Ah oui.
Et heureusement, bien sûr, heureusement qu'il y a plein de nanas qui prouvent le contraire, bien sûr, mais il y a quand même une petite tendance. Et du coup, c'est forcément quelque chose dans lequel j'ai pas du tout envie d'être. Et même s'il y a encore aujourd'hui des choses où j'ai encore beaucoup à apprendre et je continue à apprendre, mais voilà, tout est là. J'ai envie d'apprendre et j'ai envie de continuer à apprendre. Et les trucs que je ne sais pas faire, j'ai envie d'apprendre à savoir les faire. Donc là, d'avoir ce studio, ça me mettait de nouveau dans une zone d'inconfort. Parce que d'un coup, là, j'ai fait beaucoup plus de pack shots, par exemple. Quelque chose que je faisais quand même pas franchement jusque-là. Et le pack shot, pour le coup, alors là, c'est bien, c'est technique, c'est bien casse-couille. C'est bien comme il faut, quoi. Donc, c'est chouette. Du coup, ça décuple mes capacités, c'est intéressant. Et puis de nouveau, par rapport à la confiance, je me rends compte que il y a des choses que j'aurais jamais acceptées moi seule en free parce que je me sentais pas forcément les épaules d'eux. Là, je le fais parce que je suis dans cette structure avec une équipe. Enfin, même si l'équipe, je suis la seule photographe, mais c'est quand même une équipe qui me soutient dans les projets, etc. Qui sont eux en rapport avec le client. Et finalement, je suis la même photographe. Donc, il n'y avait pas besoin de se mettre des barrières dans la tête. Et voilà, c'est toujours ce problème de se mettre des barrières.
Oui, tu as mentionné depuis le début de l'interview de nombreuses fois le mot confiance. Mm. Du coup, quel est ton rapport à la confiance, tu sais?
Ah mauvais, hein, on l'aura constaté.
Oui, oui, oui.
Non, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais oui, en fait, c'est toute une question d'équilibre. Un photographe qui débarque, qui est débutant et qui s'y croit à mort et qui demande des tarifs de ouf, à la fois, si ça marche pour lui, dans un sens, finalement, est-ce qu'il a tort? Il serait bien con de s'en priver si ça marche. Mais moi, c'est sûr qu'il y a un côté où je me dis, punaise, mec, ça va, quoi. Ça va, les épaules, enfin, tu t'y crois bien, quoi. Mais à la limite, bon. Mais à l'inverse, il faut quand même trouver le juste milieu. J'avais entendu, justement, dans un workshop, quelqu'un qui disait « Mais en fait, c'est une erreur de croire que la vie est une échelle. Parfois, la vie, c'est un ascenseur. Et en fait, il ne faut pas se dire constamment que je ne suis pas à l'étape B, donc je ne peux pas passer à l'étape C. » Et en fait, ça ne marche pas comme ça. On peut croire que ça marche comme ça, mais... Et dans un sens, oui, il faut faire les choses petit à petit, il faut apprendre, il faut se former, mais il ne faut pas non plus, à ce point-là, se restreindre. Et parfois, la vie, c'est un ascenseur. Et d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et tant pis, la porte, elle s'ouvre maintenant, il faut y aller. Et ça, c'est un truc dont j'ai pris conscience avec le temps. Avec le temps,
ouais. Tu veux dire que par manque de confiance, avant, tu aurais été genre, non, mais cette porte, elle n'est pas pour moi maintenant.
Complètement.
Et avec le temps, tu te dis, allez, go, maintenant, j'y vais.
Ah oui, voilà, c'est exactement ça.
Même si tu n'avais pas confiance, mais tu te rendais compte que la porte était ouverte, il fallait s'y insérer.
Ah ben, ouais. Parce qu'au pire des cas, quoi? Au pire des cas, ça foire. Eh ben, c'est la meilleure occasion d'apprendre. Okay. C'est comme ça qu'on apprend. Donc au pire, c'est pas grave, quoi. Enfin, la porte est ouverte, t'as foiré, et puis tant pis. Et c'est toujours pareil. Si il faut se mettre dans une zone d'inconfort, si on veut apprendre et grandir, et il y a que au moment où je me suis fait violence que j'ai fait un pas en avant. Par exemple, les toutes premières fois où j'ai fait de la photo pour des hôtels, des restaurants, ce genre de choses, notamment le brief qu'on m'avait imposé, C'était un effet sun shower. Donc, ça veut dire... d'ailleurs, en plus, le premier shooting avait eu lieu, je crois, c'était novembre ou décembre. Ce genre de journée blanche où le ciel est à 50 cm de la tête. Donc, vraiment, vraiment, la journée... Alors là, pour l'effet Ibiza, on était au top, quoi. C'était magnifique. Donc, voilà, le principe, c'est que peu importe que dehors, c'est l'apocalypse, sur les photos... Eh ben, il faut faire croire que le soleil baigne, enfin, que la chambre est baignée dans le soleil, que c'est, voilà, qu'il fait beau, qu'on est bien, que, ben, du coup, il faut apprendre techniquement à gérer son flash pour faire cet effet-là. Ou ses lumières, enfin, peu importe. En tout cas, il faut apprendre. Il faut apprendre ça. Et finalement, je me rends compte que à chaque fois que j'ai eu le courage de passer le pas, c'est parce que j'ai quand même eu un petit coup de pouce. C'est-à-dire que les personnes qui m'ont fait la demande, à qui j'ai envoyé mon portfolio, et ils me disaient « Bah oui, ok, super, on te prend pour le projet. » Et je disais « Mais je vais pas savoir. » Enfin, et là, comment... « Non, mais si, regarde, d'habitude, les photographes font comme ça, et puis tu sais pas, tu vas y arriver, quoi. » Et c'était la petite phrase, je pense, que j'avais besoin d'entendre pour « Bon, ils ont l'air de dire que ça va le faire, donc ça va le faire. » Bon, alors évidemment, je suis pas arrivée là-bas comme une tâche. Je m'étais entraînée avant, j'avais regardé justement des tutos avant pour essayer de comprendre comment faire. Et voilà, et maintenant, c'est un truc que je maîtrise sans trop de soucis. Et là, quand l'agence de prod m'a contactée pour me proposer le poste à temps plein, ben, j'ai eu un peu la même réaction sur le moment. C'est-à-dire qu'ils me proposent le poste. Bon, je regarde les différents points. Il y a des trucs, je me dis oui, ok, ça va. Je match. Et puis il y a d'autres trucs où je dis ouais, enfin bon, je suis quand même pas une photographe de studio au départ. Oui, j'ai une expérience petite parce que j'ai le matériel chez moi et je peux un petit peu bricoler, faire semblant de faire un peu du studio. Mais de là à avoir un plateau, gérer tous les trucs, enfin non. Et c'est exactement ce que je leur ai dit en plus. Enfin, comme je suis quelqu'un de, je vais pas faire semblant d'eux et que en tout cas maintenant le fake it till you make it je m'en tape et que je suis encore plus entière qu'avant, ben voilà, je leur ai clairement dit non mais les gars, enfin est-ce que vous êtes sûrs, quoi. Et puis finalement, ben voilà, ils ont décidé d'avoir confiance en moi, donc ça m'a donné la légitimité d'eux. Et puis oui, j'ai fait des petites erreurs techniques, ben bien sûr, parce qu'il faut apprendre, mais voilà, j'ai appris et je continue à apprendre. Et
c'est marrant parce que j'ai moi aussi ce rapport à la confiance. Je sais que d'extérieur, beaucoup de gens peuvent croire que j'ai mis des bordes de confiance en soi. Les gens qui me connaissent très très bien, Dixit, ma femme, vont me dire genre un. Mais je me suis rendu compte que ce n'est que en faisant des erreurs, en étant vulnérable, et aussi, enfin qu'on apprend. Et mes meilleurs projets, notamment à mes débuts, qui m'ont permis de me dépasser, c'est quand le client me faisait confiance, justement. Et que j'avais les compétences, mais peut-être pas au niveau attendu, ou du moins la pression que moi, je me mettais. Mais parce que la personne me faisait confiance, ça m'a donné des ailes, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et je pense qu'une bonne dose de confiance et de non-confiance en soi, au final, un bon équilibre. Trop confiance, en fait, on n'apprend plus.
Complètement. Alors oui, c'est exactement ça. Pas de confiance, ça veut dire qu'on n'ose pas, donc on n'apprend pas.
C'est ça.
Et trop de confiance, bah, on croit qu'on sait tout, donc on n'apprend pas non plus.
Non.
Alors, humainement, mais c'est vraiment juste le point de vue humain, je préfère quand même quelqu'un qui n'a pas assez confiance que quelqu'un qui a trop confiance, parce que c'est souvent synonyme de gros connard, hein, donc c'est moins sympa comme pote, hein, tout de suite. Mais oui, trop confiance, c'est très mauvais. Et après, tu vois, ça c'est le double piège pour moi, c'est que j'avais très conscience que par manque de confiance, j'ai beaucoup travaillé et que c'est grâce à ça que j'ai progressé. Et là, à un moment donné, il faut juste se dire, bon, c'était bien au début de ne pas avoir confiance, ça m'a permis de mettre les petites étapes les unes après les autres, ça m'a permis de creuser, ça m'a permis de continuer à apprendre. Sinon, j'en serais toujours à mettre du vignettage dégueulasse et des filtres dégueux si je ne m'étais pas remise en cause. Donc, et avoir techniquement des photos à moitié floues, voilà. Donc, non, c'est sûr que ça a apporté du bon, mais il faut une fois de plus trouver le juste milieu. C'est qu'à un moment donné... mais c'est ce qui est génial avec l'expérience, c'est que bon gré, mal gré, ça se gagne.
C'est sûr.
À un moment donné, il y a cette légitimité qui s'installe petit à petit et heureusement. Heureusement, parce que sinon, c'est quand même... Si au bout de 10 ans, il n'y a toujours pas la moindre once de confiance, c'est dur à vivre au quotidien quand même. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre.
C'est clair. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en photographe freelance ou photographe tout court.
Alors, je dirais déjà... Sois prêt à sortir de ta zone de confort, dans le sens où je trouve que si, d'un point de vue voilà, très pragmatique, tu veux en vivre, ben, autant avoir plusieurs cordes à ton arc et essayer de développer un maximum de choses, hein, parce que de ne pas te limiter à un seul type de photographie. Ou alors, si tu n'en fais qu'un seul, bah, sois le meilleur, quoi, parce que c'est ça, et parce qu'on est beaucoup, beaucoup de photographes, donc il faut se sortir du lot. Donc.
Ouais.
Voilà, deuxième conseil, nourris-toi de choses qui ne sont pas... par exemple, pour un photographe de mariage, voilà l'exemple, eh ben, ne regarde pas forcément que les photos de mariage des autres. Regarde autre chose, justement. Regarde la photo de mode, regarde la photo de tout, quoi. Mais se nourrir dans son propre milieu, c'est l'anti-créativité, quoi. Là, c'est sûr que tu vas faire la même chose que ton voisin, donc il n'y a pas d'intérêt. Et en troisième conseil, eh ben, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer aussi.
C'est clair.
Bien s'entourer parce que ça reste quelque chose de difficile. Et si là, les proches ben, ne comprennent pas, par exemple, si mon mec trouvait que mon métier n'a aucun intérêt et que voilà, ben, oui, on aurait vécu des moments difficiles, je pense, parce que ça demande du sacrifice. Financièrement, c'est pas toujours la fête. Donc, il faut avoir quand même le soutien de son entourage. C'est très important.
Tu peux développer ? Qu'est-ce que tu veux dire par bien s'entourer ?
Ben, c'est simplement d'avoir des gens qui croient en nous, qui, quand on baisse les bras, nous donnent le petit coup de boost dont on a besoin. Mmh. Nous portent un peu, parce que c'est, comme on disait, quand on est free, on est seul, en fait. Et c'est hyper dur, seul, d'être à la fois dans la critique pour progresser, mais en même temps, pas trop, parce qu'il faut quand même y aller. Et puis, voilà. Et puis, en même temps, il faut se lever le matin, il faut se motiver, il faut bosser tout seul chez soi. Ah oui, bosser seul. Ah oui, voilà, très, très bon conseil, très pragmatique. C'est bien de bosser pas forcément chez soi, même d'aller dans un café, hein. Même pas besoin forcément de payer un coworking ou quoi, je veux dire, si on peut un coworking, ben c'est génial, mais si on peut pas, peut-être de rejoindre un autre freelance et de faire une fois chez toi, une fois chez moi, enfin j'en sais rien, mais d'être seul, sans horaire, sans rien, c'est très 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 dur de se maintenir dans un rythme. Et je parle pas forcément d'un rythme, faut nécessairement être debout à 8 heures, manger à midi, c'est pas ça. C'est plus un rythme de travail, quoi. On est vite, enfin, en tout cas, moi, étant un peu fainéante, on se laisse vite emporter dans n'importe quoi. Et les gens aussi ont beaucoup de mal, là pour le coup, l'entourage n'aide pas, à comprendre que c'est pas parce que je suis freelance que je suis free. Tout court. Et du coup, ça te dit, on fait ça tel jour. Et il y a des journées où c'est hyper dur d'avoir envie de refuser, parce que bien sûr qu'on a envie de glander et d'aller sortir et d'aller comme tout le monde, quoi, en fait. Donc, c'est parfois ça aide, voilà, de rejoindre une structure, quelle qu'elle soit, pour pouvoir du coup avoir des horaires et dire, bah non, là c'est l'horaire où je bosse, donc non, je vais pas faire ça à ce moment-là et tant pis. Donc ça, ça aide beaucoup.
C'est une discipline, en fait.
Ouais, de gagner en discipline. Et du coup, de manière globale, de connaître ses travers, d'apprendre à se connaître, connaître ses travers. Pour savoir là où il faut être vigilant. Si on sait qu'on a cette nature feignante, bah ouais, clairement. Alors, clairement, si tu sais que tu es un feignant, avéré, va dans un espace de coworking, tu mets la thune, c'est pas grave, mais parce que la thune que tu vas mettre pour te payer ce loyer-là sera largement compensée, parce que t'auras arrêté d'avoir un baobab dans la main et t'auras bossé trois fois plus parce que tu es dans cet espace-là, que de dire « Ah ben non, je vais faire cette économie, mais du coup, chez toi, tu glandes. Là, t'as rien gagné. » Donc, il faut connaître ses faiblesses et essayer de les compenser. Et ce que tu ne sais pas faire, toi, peut-être que ton pote sait le faire et peut t'aider. Et je pense qu'il faut quand même maîtriser un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu tous les domaines, un peu la com, un peu la compta, un peu le machin, un peu le truc, pour pouvoir... se gérer et avoir une connaissance de son activité de manière globale, mais il faut quand même se dire, bah là, comme moi, je suis super nulle là-dedans, bah, je demande conseil à quelqu'un, voire je délègue en partie. Faut pas être... Moi, je sais même pas me connecter sur Instagram et je demande à quelqu'un de le faire pour moi. Faut quand même maîtriser un peu son truc. Mais voilà, il faut savoir se faire aider aussi et pouvoir déléguer.
Et oser demander.
Première étape.
Franchement, c'est pas facile pour tout le monde.
Non, c'est pas facile. Pour moi, la première, c'est pas du tout facile.
Non, ouais. Oui, parce que ça demande justement cette honnêteté, cette vulnérabilité de « je sais pas faire, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ?»
C'est ça.
Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Élodie, merci beaucoup pour cette discussion. Franchement, je sais pas si ça s'est entendu, mais ça m'a beaucoup fait sourire, ça m'a beaucoup fait rire aussi.
Et je n'ai même pas trop dit le mot putain. Et ça, c'est une belle première pour moi, c'est bien.
Voilà, mais t'as pu le placer à la fin quand même.
Et oui, parce qu'il fallait quand même. Je t'avais prévenu que si tu me faisais venir, es-tu sûr? Voilà, donc il est quand même placé.
Je vais devoir mettre explicite à la fin et tout. Fais chier, quoi.
Fais chier, exactement.
Merci, Élodie.
C'était ma discussion avec Élodie Winter. Je sais que je le dis à chaque fois, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette discussion. On a abordé tellement de sujets qui me tiennent à cœur, et puis, faut avouer qu'avec Élodie, on est toujours loin de s'ennuyer. Donc, encore une fois, merci mille fois à elle. Je garde un souvenir mémorable de cet échange. Si cette interview vous a plu, je vous invite à le lui dire. Pour ça, suivez-la sur Instagram et Facebook, ou bien visitez son magnifique site internet at elodiewinter.com afin d'admirer ses photos. Les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux @adrienguymusic ou à écouter d'autres sons sur sa page SoundCloud. Si vous aimez ce podcast et que cet épisode vous a particulièrement été utile, vous pouvez faire plusieurs choses. 1. Le partager sur vos réseaux ou en parler à un ami. Ça, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. 2. Donnez-moi vos feedbacks et vos recommandations en m'écrivant sur les réseaux sociaux. J'utilise majoritairement Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Ça m'aide vraiment quand vous me racontez ce que vous avez apprécié ou ce qui pourrait être amélioré. 3. Abonnez-vous à ma newsletter pour être tenu au courant de toutes les activités de ce podcast. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode ou en visitant mon site internet. Et puis finalement, 4. Vous pouvez me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, ou encore écrire une note à l'image de l'illustra Lulu sur Instagram qui a écrit la note suivante. J'attends les lundis une semaine sur deux avec beaucoup d'impatience. C'est mon petit moment à moi d'écouter ce podcast. Longue vie à Sens Créatif. Honnêtement, ce type de commentaire, ça fait grave plaisir et ça permet au podcast d'encore plus se faire connaître. Donc merci l'illustre à Lulu et à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Allez, sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, un très bel été à tous, bonnes vacances à ceux qui ont cette chance et aux autres, bon courage et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.